7h24 minutes. Québec a demandé un effort pour une période de 28 jours à l'ensemble des Québécois afin de stopper la vague, ou à tout le moins l'aplanir, pour éviter une trop grande pression sur le réseau de la santé. Depuis les derniers jours, on voit que le nombre de cas augmente. Il y a eu également une augmentation du nombre de patients hospitalisés, soins intensifs. Ça a baissé un peu hier, mais il y a donc une énorme préoccupation. On s'attend qu'aujourd'hui, le gouvernement du Québec va décréter que Montréal et Québec sont devenus des zones rouges. Reste à savoir quelles seront les nouvelles mesures qui seront imposées aux citoyens. Mais il y a un élément qui est clair, puis je pense qu'on l'a tous vu un peu en fin de semaine, c'est que les gens suivent de moins en moins les consignes. On a vu des rassemblements, des gens qui étaient aux pommes, des gens qui étaient sur le Mont-Royal, des gens qui ont fait des parties privées, on appelle la police. Je vais faire le point sur la situation ce matin avec le docteur François Marquis de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour.
Bon matin.
D'abord, c'est quoi le problème à l'urgence de Maisonneuve-Rosemont actuellement?
Bien, en fait, le problème est relativement simple. On n'a jamais eu la baisse d'activité qu'on a habituellement l'été. Là, l'automne revient. Il y a toujours une augmentation d'activité à l'automne. La grande différence entre cette année et les autres années, c'est que le personnel est en manque. Il y a énormément d'heures supplémentaires. Et quand on fait un temps supplémentaire obligé, ce qui n'est jamais quelque chose qui est fait à la légère, le problème, c'est que cet employé-là, on pèle le problème au lendemain. Parce que les employés qui restent en temps supplémentaire obligé, ben ils ne peuvent pas faire des journées de 24 heures. À un moment donné, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et ce qui fait que, tranquillement, le personnel s'épuise, il y a plus de maladies, il y a plus de temps supplémentaire obligé. Et si on n'arrive pas à casser ce cercle-là, les problèmes vont aller en augmentant. Et une façon de baisser ces problèmes-là, c'est notamment en essayant de s'assurer qu'il y a le moins de gens possible, que toutes les maladies qui sont prévenables ne viennent pas à l'urgence. Là, que dès qu'on peut envoyer un patient ailleurs, et c'est ce qu'on fait présentement, on va dévier des cas plus bénins là, dans les cliniques autour. On va essayer de transférer des patients quand on peut, mais tout le réseau, ce qu'on vit à Maisonneuve-Rosemont, se vit aussi dans beaucoup, beaucoup d'autres hôpitaux du réseau. C'est juste que c'est extrêmement apparent à Maisonneuve-Rosemont parce qu'historiquement, on a une urgence qui a un énorme volume qui dessert énormément de population. Donc, nous autres, on est un peu comme le canari du système de santé, là. Quand il y a une urgence qui se met à aller mal, habituellement, c'est nous autres en premier, là.
OK. Quand on regarde la situation avec le nombre de gens qui sont absents pour toutes sortes de raisons, puis là, ça va de quelqu'un qui a été testé positif, j'imagine, à des parents qui ont leur enfant en attente d'un résultat, qui ne sont pas présents. L'absence du personnel, même en temps normal, l'impact, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a des patients non-COVID qui sont en attente, par exemple, pour des chirurgies cancer ou autres, qui ne peuvent pas être opérés, là?
Bien, effectivement, c'est ça, parce qu'il y a un nombre de lits dans l'hôpital, et on peut s'occuper d'un certain nombre de personnes. Donc, tous ceux qui rentrent par l'urgence, bien, ceux qu'on ne peut pas régler le problème-là, puis les retourner chez eux, ils vont être hospitalisés, ce qui fait que les patients qu'on dit électifs, ceux qui arrivent de la maison de façon prévue, bien, ils vont avoir un impact. Il va avoir un impact sur eux autres parce que c'est ceux qu'on peut contrôler dans le système. Donc, à partir de là, il y a une liste, c'est coté par niveau d'urgence et il y a les priorités opératoires. Puis il y a toutes ces choses-là. C'est une immense machine, mais c'est clair que moins de lits disponibles, il y a quelqu'un à quelque part qui avait besoin de ce lit-là qui n'aura pas accès au moment où il pensait pouvoir y avoir accès.
OK. Docteur Marquis, je pense qu'on voit qu'il y a un pourcentage plus élevé de gens, si on compare avec le printemps, qui ont de la misère avec les mesures, qui ne les respectent pas. Et les arguments que j'entends, je vous les soumets ce matin. De dire, par exemple, ce sont des plus jeunes qui sont infectés, donc ils ont moins de symptômes durs à supporter, donc des gens qui sont capables de s'en sortir plus facilement. Il y a moins de cas d'hospitalisation, moins de cas aux soins intensifs, moins de décès, c'est moins pire qu'au printemps.
En fait, ça, c'est de la rationalisation. C'est quand on veut justifier qu'on ne veut pas faire quelque chose, habituellement, on trouve une réflexion qui va nous donner la conscience tranquille. La réalité, là, c'est que c'est vrai que l'épidémiologie est différente. Donc, les patients atteints sont différents. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le problème avec les jeunes, c'est que oui, ils sont moins souvent malades au point d'être à l'hôpital ou au point d'être aux soins intensifs. Mais il faut le comprendre, c'est à l'envers. c'est que quand un jeune est rendu malade au point d'arriver à l'hôpital et au point de se ramasser aux soins intensifs, c'est que la maladie est beaucoup plus sévère chez lui, mais il va aussi potentiellement survivre beaucoup plus longtemps aux soins intensifs. Et donc, la ressource qu'il utilise est potentiellement utilisée beaucoup plus longtemps que le patient plus âgé, où ça va se décider plus rapidement si ça va bien ou si ça va mal. L'autre chose, c'est qu'après ça, c'est une question statistique. Oui, c'est rare qu'un jeune se ramasse aussi malade qu'une personne plus âgée ou qu'une personne avec plein de comorbidités. Mais il y a du monde qui gagne la loto à tous les jours, même si c'est très, très rare. Hein? Il y a toute une industrie basée sur cette statistique-là. Donc, si le jeune attrape la courte paille et se ramasse aux soins intensifs, plus il va avoir de jeunes malades, plus ça va arriver. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeune qui arrive dans les soins intensifs, et on l'a vu dans la première vague parce qu'il y en a eu, il n'y a pas juste eu des patients de CHSLD, reste malade très longtemps, des semaines, certains des mois, et ça a un poids important après ça sur le système de santé et pour la vie de ces gens-là, parce qu'ils vont guérir, mais ça ne veut pas dire, on l'a vu, qu'ils vont revenir complètement normaux. Et quand à 20 ans ou à 30 ans, tu sors d'une hospitalisation de soins intensifs avec un handicap permanent, ben il est rendu trop tard. Et là, tu as toute ta vie devant toi pour regretter d'avoir fait ton party sur le Mont-Royal.
Je regarde une lettre signée par 250 scientifiques français. Il y a des médecins, il y a des chercheurs qui disent qu'il faut changer de stratégie. Il faut protéger, on vient d'en parler un peu, là, les gens vulnérables, les personnes âgées, des gens qui ont des problèmes de santé chroniques et permettre aux autres de pouvoir vivre plus librement pour des raisons de santé mentale, tout simplement. Bref, ils vont même jusqu'à dire qu'il y a probablement des cas de COVID. Oui, la personne avait la COVID, mais c'est pas ça dont elle est morte. C'est pas si pire que ça. Là. Je parle pas là, de complotistes, là. Je vous parle de chercheurs scientifiques français. Ils sont 250 à avoir signé ça.
Oui. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Hein? Et souvent, la question qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, il y a juste des conséquences à nos solutions. C'est que d'un côté, on pourrait retourner dans le confinement total, ce que je pense pas que le gouvernement veut faire. D'un autre côté, on pourrait complètement aller en disant, regardez, c'est une épidémie, c'est une pandémie, il va y avoir des milliers de morts. Who cares? L'humanité va survivre. OK? Ça, c'est une autre façon de le voir. Bref, ça, il faut regarder dans notre société, nous, qu'est-ce qu'on veut faire. Et il faut comprendre qu'une stratégie comme ça sur papier, c'est vraiment mignon, là. Mais à l'appliquer, ça veut dire, entre autres, qu'est-ce que vous faites? Les jeunes ont souvent dans la société énormément d'emplois où ils sont en contact avec ceux qui sont vulnérables. Ils font beaucoup de travail de service. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis aux jeunes, ben regardez, faites votre vie, mais vous n'allez pas travailler. Ou on va... Qu'est-ce qu'on fait pour assurer les services aux gens qui sont à nos aînés et à nos vulnérables? Est-ce qu'on est rendu qu'on fait des cinémas, des heures de cinéma pour certains patients, puis des heures de cinéma pour gens qu'on ne laisse pas rentrer dans les bars ou les restaurants des patients qui ont des maladies chroniques? Donc, c'est ça aussi, c'est mignon sur papier, mais quand on a un gouvernement qui doit, après ça, mettre ça en application, ça devient assez cauchemardesque, parce que malheureusement, notre société est profondément intégrée. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui sont vulnérables, pas nécessairement vulnérables pour l'attraper, mais qui sont, disons, potentiellement des bons vecteurs de virus, qui sont distribués partout dans notre société. Et donc, séparer, faire une ségrégation, parce que c'est ce qu'on demande, c'est ce que ces gens-là demandent. Là. Ils disent de faire deux classes de citoyens, les à risque, les pas à risque, et de séparer les ressources et de faire une ségrégation entre ces deux groupes-là. C'est mignon dit comme ça sur le papier, là, mais c'est ce qu'ils demanderaient de faire une ségrégation sociale au Québec. Est-ce que nos valeurs sociales, la question se pose, sont prêtes à aller jusque-là? Est-ce qu'on est prêtes à faire deux classes de citoyens? Pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus à risque que l'autre, et de donner des avantages et des inconvénients à chacun de ces groupes-là dans le but, théoriquement, de les protéger. C'est une solution. Je dis pas que c'est une mauvaise solution. Je dis juste qu'elle a des conséquences sociales. Ces conséquences-là vont être différentes, mais il va y en avoir. Et je pense qu'après une couple de semaines de ségrégation basée sur un critère de vulnérabilité, on aurait des gens qui commenceraient rapidement à hurler pour juste d'autres raisons que ceux qui hurlent présentement. Ce ne sera juste plus les mêmes personnes qui vont chialer.
Docteur Marquis, diriez-vous qu'on est rendu à un point tournant, là? C'est-à-dire qu'on est rendu là, au début du mois d'octobre, il y a la saison classique de la grippe qui s'en vient. Vous me parliez des gens absents, de l'épuisement, de la pression sur le réseau de la santé. Est-ce qu'on est là à un point charnière?
Certainement. Ma question que moi, je me pose, c'est est-ce que le point charnière n'était pas la semaine passée, dans le sens où vous comprenez que à cause de l'incubation de la maladie, ce qu'on fait aujourd'hui va juste avoir une répercussion d'à peu près une semaine ou deux. Mon inquiétude, présentement, c'est que même si tout le monde, tout d'un coup, là, commence à faire attention, il faut s'attendre que le prochain deux semaines va aller en s'empirant. Et là, on l'entend, là, on a déjà deux zones extrêmement importantes en termes de volumétrie de population qui risquent probablement d'être placées dans le rouge. Donc, la question, c'est ça. Ce qui est important, c'est de se dire, et les gens qui disent que la deuxième vague ne sera pas comme la première, ils ont absolument raison. C'est quand ils disent qu'elle va être de loin plus bénigne que la première, c'est là que je pense que je me trompe. Et que, pas que je me trompe, mais que les autres se trompent. Et j'aimerais ça, moi, me tromper et de pouvoir dire en rétrospect, ah ben, regarde donc, il n'y avait rien là. Mais tous les indicateurs nous disent que la deuxième vague risque d'avoir un impact sur la population différente, mais aussi importante, sinon plus que la première.
Merci beaucoup, Dr. Marquis. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir, Dr. François Marquis, donc. Chef des services des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et je rappelle que plus tard aujourd'hui, on va connaître ce que ça veut dire clairement, je l'espère, et concrètement, de passer d'un code orange à un code rouge.